Alors je me tourne vers la droite de la salle. Je sais qu'il y en a qui vibrent à ce genre d'image, surtout s'ils imaginent la cylindrée du moteur et les kilowatts de celui-ci. Alors je me suis permis d'emprunter à un constructeur français cette image de publicité avec ce titre « Une voiture ultra personnalisable ». C'est-à-dire une voiture qui espère coller au goût, à la personnalité de son acheteur. Acheter une telle voiture, il faut le dire, c'est aussi être différent, identifié quand vous rentrez dans votre lotissement ou dans votre rue, reconnu, pourquoi pas distingué, différencié des autres. Il est cependant cohérent pour chacun d'entre nous, pour moi-même, de préférer en effet quelque chose qui me corresponde, dans la couleur, dans le style. Mais s'il en est ainsi, pour ma vie de chaque jour, pour mon quotidien, pour les biens matériels, est-ce que ma spiritualité ne risque pas d'être elle aussi impactée par ce comportement? Et pourquoi pas, je ne choisirai pas une foi ultra personnalisable. C'est-à-dire une foi qui me correspond, dans laquelle je me retrouve, avec laquelle je suis à l'aise. Par exemple, une foi de réconfort, ou si je suis douillé, une foi même de confort, confortable. Ainsi, une foi, par exemple, sans discipline, sans contrainte, une sucrerie plutôt qu'une médecine. Alors pour cela, si un jour, il y a bien longtemps, en Éden, Dieu a décidé de créer l'homme à son image, est-ce que je ne suis pas en risque de créer Dieu à la mienne? Créer Dieu, penser Dieu selon mon image, selon l'image que je me fais de lui, selon l'attente que j'ai de lui. C'est un risque de penser, imaginer Dieu, son créateur, à mon image, d'avoir une foi un peu comme la foi du distributeur, pour petit creux, un petit creux à l'estomac, ou un petit creux à l'âme, je mets 1 euro de recherche de Dieu, d'engagement, et je tire le tiroir. Sucré ou salé? Selon les goûts, selon mon désir, selon mon attente, selon mon besoin. Le mot est lâché. Le besoin. Le besoin est le fil conducteur, la maille qui va ou qui risque de me faire construire un Dieu à mon image, à mon attente. Or, quand je cède aux attentes de ma personnalité, de ma nature, à ses besoins, à ce que la Bible appelle la chair, je suis en grand danger de ne plus entendre, de ne plus écouter la volonté de Dieu. Alors pour illustrer quelques cas, je vais vous faire parcourir quelques scènes de la parole de Dieu d'il y a fort longtemps et un peu plus près de nous. La première concerne un individu célèbre, le premier roi d'Israël, Saül. Et nous allons lire que ce Saül était encore dans une ville appelée Gilgal. Il y avait tout un peuple qui se trouvait auprès de lui et qui tremblait parce qu'il avait en face de lui des ennemis et cela faisait 7 jours qu'il attendait. Il attendait que Samuel le prophète vienne et puis il ne venait pas. Et ce texte nous parle d'attente de réponse de Dieu, de solution de Dieu. Et puis, pour un roi d'Israël, chef de l'armée, il voyait son peuple se disperser. Alors, n'y tenant plus, le roi Saül va prendre les devants et va commander d'apporter les sacrifices, l'holocauste, d'action de grâce, et va les offrir à Dieu. Un besoin légitime, un besoin pressant, urgent, on le comprend. Un besoin qui panique, qui engendre la peur, l'impatience. Et répondant à cela, une décision contraire à la volonté de Dieu, parce que ayant une image déformée de Dieu. C'est l'exemple type de l'égocentrisme humain. Vous savez peut-être que le roi David était un super bel homme. Il dépassait tous les autres mecs d'une tête. Toutes les filles d'Israël étaient le regard fixé sur lui. Et quoi de plus évident que de développer un égocentrisme quand vous êtes ainsi gâté par la vie et qu'en plus Dieu vous désigne comme roi. Et là, Saül, avec sa tête enflée, va oublier que l'appel de Dieu n'est pas la culture de l'égocentrisme humain, naturellement humain, mais celui du théocentrisme, c'est-à-dire que Dieu doit être mis au centre de notre vie. Alors, il va y avoir une conséquence terrible à cela. Dieu va lui dire à travers le prophète Samuel, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement, aussi ton règne ne durera pas. » C'est-à-dire que, et nous le savons, et vous aussi si vous lisez la parole de Dieu, qui va même se terminer de façon fort tragique, puisqu'il va mourir avec son fils lors d'un combat. Voyez-vous, dans cet exemple, on voit un homme qui avait entendu parler de Dieu. Il avait appris des choses du prophète Samuel, mais il avait peu appris réellement ce qu'était Dieu, quelle était sa personne, son fonctionnement. Ai-je un besoin urgent, un besoin pressant, un besoin légitime? Il faut que les enseignements, il faut que les récits de la Bible soient pour nous des enseignements. Quelle première leçon puis-je tirer de ce récit? Malgré la prière, le temps passe et je n'ai pas de réponse. Et il y a tentation de satisfaire, de combler ce besoin pressant, même si je risque ou si je suis en marge de désobéir. Quelques exemples, mais vous avez chacun votre vie et chacun votre exemple. Guérison physique qui ne vient pas. Et puis, à force de consulter, de prier et de ne pas avoir de réponse, un jour on glisse vers la médecine à support un peu douteux, voire ésotérique. Ce cher Saül, à la veille de sa mort, ira voir une voyante. Aux antipodes complets des enseignements qu'il avait eus toute sa vie. On peut avoir une boulimie professionnelle ou financière, désirant réussir sa vie parce que le temps passe et il y a un besoin. Il y a un besoin. Et nous voyons quel drame, quand les années passent, combien on sont arrivés à une rupture familiale ou une rupture ecclésiale parce qu'ils ont cédé aux besoins pressants qui étaient le leur. Que dire de l'absence de conjoint? De l'absence de conjoint qui dure et avec le risque de glisser vers un choix contraire à la parole de Dieu. Attention à la casse. La casse, pour Saül, ça a été la chute de ce qu'il aurait pu être une dynastie et dans des conditions tragiques. C'est terrible, il a essayé de tuer David, son successeur, et ainsi de suite. Enfin, c'est lamentable. Alors, vous me direz, mais il y a des gens plus sympas. Moi, je ne me retrouve pas du tout là-dedans. Et puis alors, moi, j'ai vraiment de la bonne volonté pour écouter Dieu. Je suis même sincère à ce mot. Pourvu qu'on soit sincère. Mais on peut être sincèrement bouddhiste. Ou sincèrement voleur. Je ne fais pas l'association, hein. On peut y mettre tout son cœur quand notre âme, notre conscience est altérée. La sincérité, je suis désolé de vous le dire, ne suffit pas à Dieu. Comme moi, je pense que vous pourrez être choqué dans un premier temps par ce récit. Alors, ça a cliqué deux fois. Il y avait un peuple, donc, avec David le successeur, qui tout d'un coup s'est souvenu qu'il n'y avait pas l'arche de l'Éternel, une boîte de 50 cm au cube à peu près, qui représentait, on va dire, Dieu. Et cette arche n'était plus près d'eux. Et alors, ils ont eu un projet formidable, on va dire un projet d'une église en marche, une église vivante. Ils ont dit, nous ne sommes pas occupés de cette arche, alors tous ensemble, et cela est convenable à nos yeux, nous allons faire venir cette arche près de nous. C'est super. Ils font tout leur possible pour honorer Dieu. Tout leur possible, ils font de leur mieux. Ils cherchent à amener près d'eux, à travers un symbole, Dieu le divin. Et alors que se passe-t-il? Ils mettent le paquet, ils organisent la chose, ils prennent un char neuf, hein? Et puis alors, ils célèbrent Dieu de toute leur force, ils dansent, David le roi en tête et tout Israël. Ils chantent, ils jouent de la harpe, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Quelle merveilleuse fête! Quel merveilleux projet spirituel pour une église! Et la catastrophe! Il y a un gars qui pense bien faire, qui fait de son mieux, qui est sincère, qui conduit le char. Et voilà qu'il y a une ornière, le char bascule, il tend la main pour éviter au sacrilège que l'arche tombe par terre, et c'est lui qui tombe reine mort devant Dieu. Ils avaient oublié un commandement incontournable de Dieu, dans lequel je ne vais pas rentrer aujourd'hui, mais que seul un groupe d'Israël, de ce peuple, avait le droit, était en mission de commander, de déplacer et d'approcher cette arche. Et ce jeune homme, ou cet homme, Uzza, mourut là devant Dieu. Quelle leçon tirer de cela? À l'époque, il y eut une leçon pour le roi lui-même, David. Le temps passa, mais au chapitre 15, il est dit que David dit « Dieu nous a frappés parce que nous n'avons pas fait transporter l'arche selon les règles. » Lui, il avait appris que son imagination de Dieu n'était pas la vérité de Dieu. Alors, c'est vrai que dans nos vies, l'Église évangélique manque souvent de, on va dire, de symboles. On peut trouver qu'il manque de repères matériels, comme cette arche qui était devenue fétiche, un fétiche. On amène l'arche, donc on amène Dieu. Il y eut d'autres épisodes. À la sortie dans le désert, il y eut cette scène, vous savez, du serpent d'airain. Merveilleux symbole de ce serpent que l'on met sur une perche et que le peuple qui a été mordu doit regarder. Merveilleux symbole que Jésus lui-même reprendra en disant « Comme le serpent a été élevé dans le désert, il faut que je sois élevé sur une croix et que vous regardiez à moi pour être sauvés. » Et catastrophe, Dieu dut commander la destruction de ce serpent qui devint un objet de culte. Besoin d'images, d'icônes, de statues. Imaginant qu'ils peuvent me servir à être plus près de Dieu. Ah, je suis pas contre les bijoux, hein. Ma femme serait fâchée. Mais vous savez, il y a des croix toutes simples, des croix avec crucifix, des croix huguenotes, tout ce que vous voulez qui peuvent être des symboles de Dieu. Et dans notre région de Tinranche, excuse-moi, du Chambon-sur-Lignon, qui est baigné de protestantisme, je vois l'été des gros bonhommes là sur les chantiers, bien bronzés, avec leur torse, avec une croix huguenote. Pourquoi la portent-ils? Désolé, ils ne croient en plus rien. Nous sommes le 8 décembre. Je ne peux pas glisser. Je ne peux pas faire autrement que glisser un petit mot. Quand on a besoin d'une divinité comme Marie, qui nous semble plus proche, plus capable d'être un réconfort, imaginant à tort que Dieu n'est pas capable de ce projet pour notre vie, oubliant ce verset d'Ésaïe 66, « Comme quelqu'un que sa mère console, ainsi moi, je vous consolerai. » Alors, un autre ou groupe de personnages plus près de nous dans le Nouveau Testament, des hommes qui, soumis à leurs besoins, leurs pulsions, leurs désirs, étant oppressés à ce point par leurs désirs, ouais, ils vont vouloir imiter Dieu ou imiter les dons de Dieu. Est-ce que vous avez entendu parler des sept fils de l'ancien Séva, dans l'église de Séva, où il y avait un ancien qui s'appelait Séva. Je brode, c'était le souverain sacrificateur. Et alors, ces sept fils, ils ont vu des miracles extraordinaires, et ils ont dit, il n'y a pas de raison, nous aussi. Et alors, ils se sont lancés dans, on va dire, le but de chasser un démon, et puis, le texte nous dit que ce démon leur dit, mais je connais Jésus, je sais qui est Paul, l'apôtre Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et là derrière, ils se sont fait ramasser. Il y a un autre exemple dans la parole de Dieu où on voit un homme, semble-t-il nouvellement converti, qui veut lui aussi imiter les dons de Dieu, tellement il en a envie. C'est Simon le magicien. Alors Simon, il étonnait tout le monde par ses tours de magie, au point que les gens disaient « ça ne peut être que de Dieu ». Et puis, il a été convaincu par le discours du diacre Philippe, et puis il est dit, et il crut. Mais là derrière, vous savez, quand vous arrivez à la foi, des fois vous avez encore un sac à dos. Et lui, peut-être qu'il se disait, mais ma source de revenus principale, elle disparaît avec la foi. Alors il faut peut-être que, si je veux renouveler ou agrandir ma clientèle, il ne faut pas que je perde la main. Et il faut que je trouve une autre solution. Et alors il va penser acheter le pouvoir de donner l'Esprit Saint. Quelle leçon pour cet exemple? La marche avec Jésus peut me sembler trop difficile, monotone, voire parfois assez ennuyeuse. Elle est aussi réductrice pour mon ego, ma personne. Pensez donc un mot comme sanctification. Ça ne doit plus exister dans le dictionnaire, d'ailleurs, je pense. Déjà, repentance, je me rappelle de PPDA qui en avait rigolé ouvertement un soir de 20h, Patrick Poivre-Davor, c'était un gars du temps des dinosaures à la télé. Sanctification, opprobre du Christ. Cette course d'endurance, ce marathon, ne me convient pas. Moi, ce que je veux vivre, c'est des exploits avec Dieu. C'est des courses de 100 mètres. Ça ne dure pas longtemps et on a du résultat. J'ai un tel besoin de surnaturel, d'extraordinaire, que je suis prêt à les simuler pour remplir l'église. Vous croyez peut-être que ça n'existe pas. Alors je suis témoin que ça existe. Vous savez, des fois je dis à l'église de Chassieux, puisque j'ai presque un passé, hein, encore en activité pour quelques mois, dans l'industrie et le commerce, je dis, on a, nous évangéliques, un produit difficile à vendre. Vendre du pardon des péchés, de la repentance, suivi de sanctification, d'opprobre du Christ, c'est un produit fort difficile à vendre. Par contre, si je parle d'évangile, de prospérité, Si tu viens à Jésus, tu seras riche. Si tu viens à Jésus, tu seras guéri de toutes tes maladies. Si tu viens à Jésus, tu réussiras tout dans ta vie. Mon négoce est nettement plus florissant. Je suis au risque, en pratiquant cela, de devenir acteur au lieu d'être spectateur des dons de Dieu quand il le veut, quand il le choisit. L'Esprit de Dieu souffle là où il veut, quand il veut. Ça va être de tout temps, c'est pas d'aujourd'hui. L'homme s'est fait des divinités qui lui ressemblent. Au point que dans le psaume 50, Dieu dit que tu as fait des choses qui me déplaisent, et Dieu dit je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Quand vous regardez la télévision, peut-être comme moi, j'aime bien les reportages, et on voit des scènes sur les différentes croyances dans le monde. C'est très simple de reconnaître une religion. Ça ressemble aux hommes. Tout simplement. Ça va dans le sens du fonctionnement humain, alors que la Bible a un enseignement totalement inverse à la pensée de l'homme. C'est ce qu'il dit, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, dit Dieu, je l'ai fait, ou je l'ai choisi. Alors, pour résumer cette première partie, la seconde sera plus courte, ne vous inquiétez pas, je pourrais dire, dis-moi ton besoin pressant, prioritaire, premier, et je te dirai quel est ton Dieu. Quel est ton besoin premier, prioritaire, et je te dirai quel est ton Dieu ou quelle est ta recherche de Dieu. Ton besoin est-il pour cette terre? Il peut être totalement légitime. Est-il pour cette terre, pour ce quotidien, ou est-il spirituel d'abord? Car la Bible enseigne qu'il y a un ordre des choses, qu'il y a un ordre pour classer nos attentes, nos besoins. Il n'est pas question de mépriser les choses de la terre pour exalter de façon outrageuse les choses du ciel. Alors, je vais vous raconter une toute petite anecdote que je suis sûr que presque ici personne ne connaît. À travers ma belle-mère, ma femme Anne-Marie est originaire de cette église il y a longtemps. Et il y a un homme qui était grec, qui s'est converti et jouait du violon, super utile dans une église. Et lui, il a tellement méprisé sa vie passée qu'il en a méprisé même le don de Dieu et qu'il a donné le violon, tout brûlé et plus jamais joué de violon. Quel gaspillage! Cependant, il y a un ordre des choses terrestres, entre les choses terrestres et spirituelles. Dieu connaît tout de notre vécu. Il s'intéresse à mon vécu, à mon besoin. D'ailleurs, dans le même chapitre, à 4 versets d'intervalle, en Romains 8, Dieu va nous dire ces 2 versets que je pense vous connaissez par cœur, que toutes les choses qui se passent dans nos vies, Dieu les utilise pour qu'elles travaillent, qu'elles servent à notre bien-être. Mais, 4 versets plus loin, au verset 32, Dieu va nous donner l'échelle de comparaison. Il dit, je sais que vous avez des soucis, des besoins, que vous êtes en risque d'attendre des choses de moi qui soient même contraires à mon enseignement, à ma volonté. Mais ce que je veux vous dire au verset 32, c'est comparer qui, moi, Dieu, ai donné mon propre Fils unique pour vous sur la croix, comment ne pensez-vous pas je pourrais oublier vos besoins et ne pas y répondre. Voilà l'échelle, la balance de Dieu. Seulement, il y a un ordre. Il y a un ordre. Paul, en fait, l'apôtre Paul, dans ce texte de Romains 8, ne faisait que reprendre l'enseignement de Jésus, que vous connaissez par cœur, Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout, et sa justice, et tout te sera donné par-dessus. C'est l'origine du texte de Paul. Cherchez d'abord Dieu, la repentance, le salut en Jésus-Christ, et tout te sera donné par-dessus, puisque Dieu a mis en place une telle balance. Quel est mon Dieu? Quelle est ma recherche? Vous savez, dans la Bible, il nous est parlé de 10 malades, c'était lépreux, maladie inguérissable, il n'y avait pas de rayon ou de chimio, ou ainsi de suite, ou de cachou, de traitement. Et dans cette scène, il y en a 9 qui oublient Jésus, qui ne profitent, semble-t-il, que de la guérison terrestre. Et il y en a un seul, qui vient vers Jésus, qui confesse en Jésus son sauveur et le maître de sa vie. Il se prosterne, il l'adore, et en plus, il obtient lui aussi la guérison. Voilà l'ordre des choses. On peut fréquenter une église depuis très longtemps. Depuis des années, connaître le message, au point même qu'il est un peu comme une litanie, comme quelque chose qui... Vous savez, dans les films... Voilà, qui nous endort. On est tous un peu endormis, parce que moi, le premier, j'ai de la peine à me souvenir du thème du message du dimanche d'avant. Hein? Donc, et ne sommes-nous pas en risque d'entendre le constat peiné de Jésus suite à cette guérison de ces 10 lépreux par ces mots en rouge? Les 9 autres, où sont-ils? On peut passer des années sur les bancs d'une église comme celle-ci. Moi, je me rappelle quand la salle était tournée ici, et puis il y avait un verset, Christ est ressuscité. Je me disais, ça fait 10 ans que tu es assis là-devant, est-ce que tu vas t'en souvenir quand tu vas en partir? Ma femme, elle change les tableaux des fois. Elle a mis des décorations de Noël. Et puis, un jour ou deux après, elle me dit, « T'as rien vu qui a changé ?» Désolé. Désolé, je sais, c'est une des faiblesses de l'homme. Jeune femme, soyez prévenue. Si vous changez de coiffure, n'attendez pas peut-être un constat immédiat. Ou alors, guidez-le, aidez-le. Constat terrible, les 9 autres, où sont-ils? C'était pas la première fois que Jésus faisait ce constat. En Jean 14, il dira cette autre parole à son disciple Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Qui est Dieu pour toi? En fait, je vais m'arrêter là. Et je vais vous dire que tous mes propos se résument en un verset qui le dit avec beaucoup plus de force, en toute simplicité que moi. Parmi ceux qui disent à Jésus « Seigneur, Seigneur », tous n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté du Dieu, le Père qui est dans les cieux. Vous savez, dans ce verset, il est suivi une description terrible. Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait des guérisons en ton nom? Et Jésus répond, je ne vous connais pas. Il ne s'agit pas d'imiter la foi des autres. Il ne s'agit pas de penser que Dieu répond à l'image dont j'ai besoin et qu'il va rentrer dans cet entonnoir qu'a fabriqué ma conscience. Il me faut faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire obéir à l'enseignement de la Bible. Prions. Seigneur, je te prie pour moi-même, pour chacun ici présent, que tu nous fasses la grâce de rentrer dans ta volonté, que tu nous aides à casser le film que nous sommes tous en risque d'avoir construit sur toi. Seigneur, pour cela, remplis-nous de tes enseignements, de tes paroles que tu as consignées dans ta Bible, car ta parole est la vérité. Amen.